I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Allez, salut Judith et Mathieu, on reprend la réunion de la semaine dernière, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez revu Les Visiteurs 3, Les Bronzés 3 de...
Non, Geoffrey, le temps nous a manqué, bizarrement.
Oh là là, qu'est-ce que vous me
J'avais un dossier sur la non-exploitation à faire, donc entre deux Flavia la défroquée.
J'ai imploré pour faire ce dossier, donc franchement ça peut pas servir d'excuse. On continue notre réflexion de vieux râleurs et râleuses sur les suites, les reboots, la nostalgie, les legacy quels et les gnignignignin des franchises. Hein. Et il va y en avoir, puisque là on parle de principalement Star Wars et Jurassic World. On arrive à l'année fatidique de 2015. Qui a un peu ouvert les portes de l'enfer, la boîte de Pandore, qui a ensuite vraiment permis à des choses comme Terminator, Genesis, Dark Fate et tout ce bordel d'arriver. Je crois qu'on peut un peu les tenir pour responsables. La semaine dernière, on était parti du constat que le plus gros des franchises hollywoodiennes est désormais tombé dans le recyclage nostalgique appelé Legacy Quell. Alors je vais faire un petit test surprise. Est-ce que l'un de vous peut me résumer ce qu'est Legacy Quell en ayant écouté ce qu'on a dit la semaine dernière en réunion ?
Du coup, c'est une suite tardive, une suite ou un reboot, ou en tout cas, voilà, un nouvel opus tardif d'une franchise, ou d'un film tout court d'ailleurs, qui fait office de marque, et dans lequel on récupère d'anciens acteurs, d'anciens personnages, tout en instaurant de nouveaux, tout en faisant, voilà, en jouant sur la nostalgie, et tout en promettant une suite encore. Vas-y, Mathieu!
Et en créant un lien de filiation, comme tu l'as d'ailleurs beaucoup bien dit la semaine dernière.
J'adore. La petite cerise à la fin. Et en créant un lien de filiation. Voilà, bon élève. On avait vu que cette idée de Legacy Quell avait déjà été exploitée avant qu'il y ait le boom des années 2000-2010, avec notamment Halloween 20 ans après, dans les années 90.
Un peu à tâtons, quoi.
Un peu à tâtons.
Il n'y a pas encore de formule.
C'était pas théorisé. Ouais. C'était pas.
Il n'y a pas encore le cahier des charges.
Voilà. Mais on sentait déjà quand même qu'il y avait des signes précurseurs de l'apocalypse. Et au début des années 2000, ça a commencé à prendre forme, donc un peu plus officiellement. D'abord avec des trucs qui avancent encore un peu à tâtons comme Superman Returns, Die Hard, Indiana Jones, et puis on arrive donc en 2015. Donc en 2015, pour rappel, nous avons Terminator Genesis, Mad Max Fury Road, Jurassic World, Star Wars 7, Creed, et même Vive les Vacances, qui est le retour de National Lampoon Vacation, qui est un truc super populaire aux États-Unis mais qui tout le monde s'en fout en France. D'ailleurs, Vive les Vacances, je trouve ça pas mal, mais je suis un des seuls sur Terre à le penser. Donc... En juin 2015, on a Jurassic World qui relance la saga 14 ans après Jurassic Park 3. Et en décembre 2015, quelques mois après, Star Wars épisode 7 qui arrive 10 ans après l'épisode 3. Alors ce qui est intéressant quand on compare ces deux sagas qui ont avancé vraiment côte à côte pendant plusieurs années, qui ont fait une trilogie qui a cartonné, hein, qui a tapé le milliard plusieurs fois, c'est qu'il y a beaucoup de points communs, souvent malheureusement dans le négatif. C'était deux studios concurrents, deux marques extrêmement célèbres, deux IP, propriétés intellectuelles très précieuses qui valaient des milliards. Qu'est-ce que c'est les problèmes en commun pour vous les plus évidents entre ces deux sagas qui font qu'on peut les comparer et dire qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé à ce moment-là ?
T'avais fait un article sur le sujet, mais c'est vrai que ne serait-ce que dans la manière dont ont été pensées et réalisées la trilogie, il y a des points communs assez sidérants, notamment dans la fluctuation non seulement de la qualité mais aussi des thématiques des films. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a un premier film qui est une sorte de ressuscité hyper fidèle et hyper nostalgique de l'original, une suite qui se permet tout, et un troisième opus qui fait hop 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 hop.
C'est vrai. Et Colin Trevorrow en plus là-dedans.
Voilà, et oui.
Parce que Colin Trevorrow a réalisé Jurassic World 1 et 3, et il a réalisé Jurassic World 3 parce qu'il avait été dégagé de Star Wars 9.
Star Wars 9, oui, pardon, oula.
Oui, tu me fais dire n'importe quoi. Donc oui, il y a un homme en commun entre les deux. Je pense que c'est pour ça que c'est devenu l'ennemi public numéro 1 de Twitter pendant quelques temps.
Oui, Trevorrow, c'est vraiment le mec qui est là pour revenir, pour être sûr qu'on revient bien aux bonnes vieilles valeurs de la saga. Donc des sauterelles, apparemment. Et évidemment, tout le casting original qui va passer son temps à se tenir dans des plans d'ensemble en faisant... En reprenant même les poses.
Et les fringues, parce que vraiment, ils remettent à Ellie Sattler quasiment les mêmes fringues dans un souci vraiment de... Bah, tu protèges un musée, quoi. Donc le personnage revient pour que tu la reconnaisses, c'est la même actrice, c'est les mêmes fringues, quoi.
Ça, et même si on en a parlé aussi vaguement la semaine dernière, cette manière de toujours retomber dans la même arène, de refuser absolument de finalement réellement changer le concept en profondeur, de réellement changer la trame, les données de base, on va dire, du scénario, parce que même si on nous fait croire que voilà, là, maintenant, les dinosaures vivent dans le monde avec les humains, dans les villes, etc., on revient sur une forme de réserve naturelle, de trucs fermés, on va dire, dans lesquels on va pouvoir rejouer sans cesse les mêmes situations. Alors du coup, est-ce que c'est une forme de panique qui pousse les studios à se dire non, il faut absolument qu'on puisse recréer les mêmes types de scènes dans les mêmes types d'environnements parce que ça a fonctionné une première fois et on veut surtout pas prendre le risque de faire autre chose? Ou est-ce que c'est parce qu'ils savent pas faire autre chose? Enfin, je sais pas.
Ce qui est étonnant avec Star Wars, c'est que dans le deuxième, ils ont essayé de faire des choses un peu différentes qui, bon, me semblent pas hallucinantes de différence, mais ça a un peu fait péter un peu les plongeants. Donc tu peux comprendre la machinerie. Alors que dans Jurassic World 2, à la fin, est-ce qu'il y a eu vraiment un scandale quand ils ont dit elle appuie sur le bouton, ça libère les dinosaures? Il y avait quand même peut-être l'enthousiasme de il y a des dinosaures partout sur Terre, donc c'est drôle. Donc pourquoi avoir fait machine arrière?
En fait, c'est ça qui est terrible, tu vois, c'est qu'on a l'impression que vraiment maintenant ce qui dicte, c'est vraiment la réaction des fans. Et qu'on est dans une soumission totale au fanservice. Donc c'est-à-dire encore que les gens avec un esprit de chapelle un peu moins développé quant à ces franchises aiment les films ou en tout cas les trouvent de qualité, on s'en fout. Mais que par contre, ce qui compte, c'est surtout que les fans aient l'impression qu'on ait respecté le truc et qu'on n'ait pas trop changé les choses.
Et en même temps, leur film existe uniquement sur l'héritage Legacy. Donc à quel moment, du coup, tu peux faire autrement? En fait, ils sont prêts à leur propre piège. Tu fais un film pour les fans, pour ramener les fans, et après les fans sont pas contents, donc ça change ton scénario. En fait, ça fait partie du jeu, malheureusement.
C'est vrai
donc,
que
en fait,
ça met en exergue le paradoxe qu'il y a derrière le Legacy Call, c'est que ça marche une fois, et ensuite, quand il faut faire une suite, t'es un peu coincé. Alors dans les deux cas, ils ont essayé de s'éloigner en engageant notamment des cinéastes qui étaient un peu plus intéressants, on va dire, que J.J. Abrams ou Colin Trevorrow. Et dans les deux cas, ils ont essayé d'innover, sauf que ça a forcément énervé les gens pour lesquels le film était à la base. Je trouve que dans Star Wars, c'est encore plus violent parce qu'il y a des personnages comme le personnage de Rose qui est campé par une actrice dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je ne sais plus. Mais qui l'actrice a subi une vague de harcèlement tellement hardcore qu'elle a dû quitter les réseaux sociaux. Et ils l'ont vraiment mis en arrière-plan dans le troisième parce que c'est un peu la Jar Jar Binks de l'histoire, quoi.
Pour en plus créer un autre personnage féminin inutile, joué par Naomi Aki, je crois, et qui sert à rien, quoi. Et qui a vraiment un autre rôle de compagnon de route d'un des personnages principaux. Et c'est exactement le même prototype du personnage sous-exploité au milieu d'un film qui déborde de personnages et qui sait pas quoi en faire.
Mais elle sert vraiment à rien, donc les fans de Star Wars, ça leur va, tu vois.
En fait, ce qui est intéressant aussi, quand même, la différence entre Star Wars et Jurassic World, c'est que Star Wars, dès le début, c'était vraiment, réellement conçu comme une trilogie de Legacy Quel, parce que le premier, ça devait être l'épisode de Han Solo, c'est pour ça qu'il meurt. Le deuxième devait être l'épisode de Luke Skywalker, c'est pour ça qu'il apparaît à la fin du premier et qu'il est au centre du deuxième avec Rey. Et le troisième devait être celui sur Leia, sauf que Carrie Fisher est mort au début du tournage, il me semble. Donc ça a un peu changé la donne, même s'ils ont essayé de rafistoler ça avec des scènes coupées du premier, pour un peu faire un film là-dessus. Alors que Jurassic World, dans le premier, c'est quoi les personnages? C'est B.D. Wong donc, qui revient en tant que Dr. Who
Oui, et il y a... Ah, tu me poses je me rappelle plus s'il y a un caméo de... Il n'y a pas quand même Jeff Goldblum dans le premier?
Non, c'est dans le deuxième.
Dans le deuxième?
C'est le procès. Et il ne sert à rien en plus. Tu peux voir le deuxième et retirer cette scène-là. Il y a le procès sur l'incident du premier et tu as Jeff Goldblum assis à un tribunal.
Oui, alors je pense que la raison, c'est que dans Jurassic World, les stars de Jurassic Park qui récupèrent dans Jurassic World, dans le premier Jurassic World, c'est pas les personnages, c'est le T-Rex.
Ouais.
Voilà. C'est explicite dans la mise en scène. Dans la narration, l'histoire, c'est quand même... on fait un dinosaure tout beau, tout neuf, génétiquement modifié, donc... c'était pas du tout subtil, mais... C'est-à-dire les nouvelles franchises, on va dire, entre guillemets, les reboots, etc. Et finalement, qui vient sauver le jour? C'est ce le plan vieux. Incroyable de Bryce de Sobrat qui court avec son flair, et derrière le bon vieux T-Rex des familles qui vient sauver le monde, comme Bill Murray vient sauver le monde dans SOS Phantom, finalement, tu vois. Mais c'est le T-Rex.
Voilà. Donc en fait, c'est exactement pareil. Mais le stade quand même ultime qui est terrible dans Jurassic World 3, c'est de ramener tous les personnages d'un coup pour ne rien faire, alors que au moins dans Star Wars, je trouve que Han Solo, il a un truc à faire dans le premier, quoi. En plus, il a son fils, il a la filiation, donc il y a des enjeux, il se fait tuer, et c'est un peu le passage où Kylo Ren clairement bascule du côté obscur de la Force. Luke Skywalker, peu importe ce qu'on pense du développement du personnage, ils en font un truc. Il est là, il refuse l'héritage. Rey se bat un peu avec lui psychologiquement pour qu'il la forme et tout, dans mon souvenir. À la fin, il se bat contre son espèce de neveu symbolique avec Kylo Ren. Et dans le troisième, Leia, bon, on ne sait pas ce qui se serait passé. Alors que dans Jurassic World 3, vraiment, ils servent à rien. Enfin, j'ai l'impression que tu peux retirer du scénario, comme tous les êtres humains d'ailleurs, hein, et ça change rien, quoi.
Mais comme d'hab, c'est toujours en fait prétexte au marketing qu'on va faire autour. On a l'impression que ces films-là, presque, ils existent presque plus dans le marketing et dans les fantasmes que va créer ce marketing, plutôt que en ce qu'ils proposent eux-mêmes, quoi. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, en fait, qui fait la machine, qui va faire vendre, plutôt que ce qu'il y a sur la pellicule. Enfin, la pellicule, façon de dire, quoi, mais.
Moi, ce qui m'hallucine dans, encore une fois, Jurassic World 3, c'est à quel point ils sont là, non pas pour exister, mais pour cocher une case de, on refait une mise en scène, vraiment, on rouvre les portes du passé. Donc, Ellie Sattler, la première fois que tu la vois, non seulement elle est fringuée pareil, mais en plus, elle fait le même mouvement. Elle se retourne vers la caméra pour faire comme si dans le plan fameux où elle voit les dinosaures au tout début sur l'île du Jurassic Park. Et plus tard, il me semble que Jeff Goldblum, il s'enfuit avec un flair et il refait cette scène comme dans le premier.
Ah,
non,
bien. Ouais.
Il y a plusieurs moments, vraiment, ils refont les mêmes scènes. On dirait qu'ils sont juste là pour remettre en scène comme s'ils étaient au Comic-Con. Mmh. Tu vois, ils sont là pour faire un petit sketch. Ouais. Comme il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, au Emmy Award ou je sais pas quelle cérémonie, il y avait tout le casting de Ally McBeal qui était sur scène et qui a refait une petite chorégraphie. Comme dans la série. Mais tu sais, c'est marrant parce que c'est genre le Saturday Night Live, tu vois. Mmh. Mais sauf que là, c'est un blockbuster à 200 millions. Tu ramènes des gens pour refaire des morceaux de scène qui sont là juste pour t'amuser, te donner le sourire pendant la séance en te disant « Ça, je connais. »
Ah ouais, non, mais pourtant, je suis vraiment une meuf très nostalgique de manière générale, mais ça, je trouve ça tellement mortifère et tellement presque morbide, en fait, comme manière de faire. Ça me fait un peu penser à l'effet que m'ont fait les photos de tournage de Beetlejuice 2 qui sont sorties il y a quelques temps, du coup, sur les réseaux, les photos qui avaient leaké, où du coup, on voyait Winona Ryder, donc des années après, dans son personnage de Lydia Deetz, avec la même coiffure, le même look, et vraiment, du coup, quelle image, enfin, qu'est-ce que c'est censé te dire? Alors, peut-être que ce sera expliqué dans le film, dans le scénario, qu'il y a une justification intelligente à ça. Bon, j'en doute, mais admettons, peut-être. Je le souhaite, mais du coup, ça te donne l'impression que ton personnage, qui en plus était si, original et sûr de lui dans le premier, qui était chouette par plein d'aspects, puis en plus, qui dans le film même connaissait une évolution, puisque même elle change de coiffure dans le film et de look. Là, en fait, l'idée, c'est que, en fait, en 40 ans, elle a pas bougé.
Ouais.
Elle est restée coincée dans son personnage, et du coup, ça gâche l'idée que c'est une vraie personne. Le personnage n'est plus crédible, parce qu'en fait, c'est juste une image. Et du coup, voilà, l'idée, c'est que Lydia Deetz, elle a connu absolument aucune évolution, aucune maturité depuis cette époque. Enfin, je trouve que ça nique complètement un personnage, quoi.
Bah, c'est l'effet papier glacé, quoi. Il y a un truc, à une époque, qui avait du sens, qui était potentiellement très original, ce qui explique pourquoi c'est devenu culte et pourquoi il y a un héritage. Et t'en fais un truc vraiment complètement mort, glacé. C'est froid, parce qu'en fait c'est du plastoc, tu le ramènes des années après, c'est comme comme si tu sortais ta poupée Barbie, quoi.
Oui, c'est ça, c'est
tu sors Laura Dern, poupée Barbie, Ellie Sattler, et tu les mets tous ensemble, et voilà, t'es content, parce qu'à un moment ils ont un plan, ils sont tous alignés les uns à côté des autres, à côté des héros nouveaux. Et voilà, on a coché la case.
C'est d'autant plus bizarre et malaisant que, évidemment, que tous ces acteurs et actrices ont vieilli, et c'est pas grave, on les aime toujours, mais acceptez ça, embrassez ça, et du coup, faites que vos personnages, oui, ont connu des évolutions et peuvent ne plus être une espèce de vieille copie en pluridée de ce qu'ils étaient.
C'est là que c'est intéressant dans Halloween, je trouve, de voir l'évolution de. Trouve que Linda Hamilton dans Dark Fate, le fait qu'ils assument son visage ridé, sa voix rocailleuse, son look. Alors, je trouve que le film est vraiment très mauvais et pas très intéressant pour le personnage, mais le fait que c'est Linda Hamilton qui a je ne sais pas quel âge à cette époque et ils se font pas croire qu'elle est devenue autre chose. Donc, en fait, c'est vachement intéressant.
Après, dans le cas de Terminator, c'est un peu pas la force des choses parce que déjà dans Terminator 2, pour l'avoir revu récemment, elle a pas un look d'héroïne américaine très traditionnelle de l'époque. Elle est déjà hyper sèche, elle a déjà un physique hyper beau. Bourrin, tu sais, hyper survivaliste, quoi. Et donc, finalement, c'est un peu dans le prolongement de ça. Mais ce que tu dis sur Beetlejuice, ça fait penser à un film qu'on peut pas vraiment du tout considérer comme un legacy sequel, mais qui, je trouve, met beaucoup en scène ce dont tu viens de parler sur la nostalgie. C'est Le Dernier Pub avant la fin du monde de Edgar Wright, qui est donc le troisième opus d'une trilogie qui a embarqué des gens sur des années, tu vois. Et il met justement en scène un personnage qui a refusé de changer, qui veut rester dans sa ville avec ses fringues. Et plus tard dans le film, on va se rendre compte qu'il est tombé un peu dans l'alcoolisme, etc. Et pour lui, c'est une souffrance finalement d'être resté toujours la même personne. Et à la fin d'une trilogie comme ça, c'est hyper symbolique parce que t'as cette séquence où ils se retrouvent face à des copies de eux-mêmes jeunes, sans défaut, sans aspérité, et ils choisissent de rester vieux, tu vois. Et Edgar Wright a toujours parlé de nostalgie dans ses films, et dans ce film-là, je trouve que ça s'exprime de façon hyper intéressante du fait qu'il arrive justement dans ce marasme de la nostalgie absolue et de ces acteurs qu'on fiche dans des positions et qu'on aimerait voir rejouer toujours le même rôle.
Ouais.
Et ces personnages dans la trilogie Cornetto, ils jouent toujours un rôle un peu différent en restant un peu les mêmes. Et pour lui, c'est un peu le symbole de l'amitié, quoi. Mais il y a ça dans ce film-là et je trouve qu'il le dit très bien. Et pour revenir à Jurassic World.
Mais attends, juste avant Jurassic World, tu me fais penser en disant ça. C'est pas un Legacy Quell non plus, mais Gemini Man avec Will Smith, qui le confronte à Will Smith jeune, devient une sorte de Legacy Quell méta sur la carrière de Will Smith, puisque lui-même est confronté à sa version jeune, qui est plus performante, plus douée, qu'il doit abattre, alors qu'en fait, il est juste techniquement plus fort, parce qu'il est plus jeune et qu'il est la version parfaite. C'est intéressant, du coup, pas du tout Legacy Quell, et quand je t'écoutais parler, je me disais, en fait, il y a plein de possibilités thématiques hyper intéressantes.
Que le mouvement un peu qu'il y a de Legacy Quell est plus largement de la mode absolue de la nostalgie à Hollywood. Elle a aussi inspiré d'autres cinéastes, d'autres personnes à prendre le sujet de manière un peu plus subtile et un peu plus à vraiment confronter les acteurs à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils seront, notamment avec les technologies, etc. À ce que ça veut dire pour un large public de retrouver des gens sur une grande période dans un monde où tout est filmé, où tout existe. Hein, dans le Line Pub, il parle de réseau, c'est les méchants du film. Il y a un mouvement, on va dire, sur la réflexion autour de la nostalgie qui s'est un peu créé, je trouve, autour des Legacy Quell. Et je trouve que donc Jurassic World le démontre dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ce qu'il opère dans le modèle du Legacy Quell, dans le premier film, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je suis le premier à dire que c'est un film avec des milliards de défauts et qui est parfois très relou, mais le fait est que avec ce modèle-là, ils essayent de raconter quelque chose. Certes, c'est pas subtil, c'est les gros pieds de T-Rex dans le magasin de porcelaine, mais il y a un symbole derrière, le nouveau blockbuster, les blockbusters à l'ancienne. Alors c'est peut-être un discours un poil à réac, mais il y a quelque chose d'intéressant à analyser sur le sujet. Je le sais, je l'ai fait sur 15 000 signes dans un papier, notamment avec le personnage du milliardaire qui est un peu un double maléfique de John Hammond. Tout le monde a dit que c'était un clone, mais finalement c'est un genre de Elon Musk avant l'heure. Donc il y a des trucs intéressants à sortir, là où le Jurassic World 3, ils essayent pas. Et de la même manière, enfin je pense qu'il y a un peu pareil dans Star Wars, je n'aime pas trop le set, mais je pense qu'Antoine te dirait qu'il y a...
C'est vachement bien.
Voilà, il y a une réflexion derrière l'héritage des originaux qui, dans le 9, ne devient plus qu'une sorte de soupe promotionnelle, comme tu disais. Mm. C'est une suite d'études de marché mises les unes après les autres, sans qu'il y ait un film derrière, ça devient une genre de créature...
Mais des études de marché dont le résultat, finalement, encore une fois, c'est avant tout le culte du fanservice, et en fait, ça a le même effet que, bah, justement, quand t'étais fan à une certaine époque, à l'époque où les VHS existaient, où tu veux regarder ton film 15 fois de suite, parce que tu l'adores et tu fais que ça, et tu remets ta cassette dans le magnéto une fois, deux fois, trois fois, et plus ça va, bah, en fait... Tu revois que la même chose, mais plus ça va, plus l'image elle est abîmée, plus le son déconne parce que ta cassette tombe en ruine et
on sent l'expérience.
Voilà, c'était la métaphore du avec la cassette de Sauver Willy.
Parce que c'était le bon temps, les cassettes et les disquettes.
Non mais c'est vrai que je suis pas fan du premier Jurassic World que je trouve assez nul, mais au moins je vois l'embryon de réflexion sur le parc est maintenant un Disneyland quoi.
Ouais.
Et c'est pour ça que Park devient World, comme Disney World, tout connement. Et au moins, il y a ça. Donc, avec tout ce que ça a de triste, parce que je trouve que c'est traité justement avec un degré de cynisme qui me dégoûte un peu dans le film, mais au moins, ce long travelling qu'il y a sur le parc au début avec la musique triomphante que tout le monde a commenté en disant « Bah du coup, c'est vrai que moi, le premier, je me suis dit « Mais ils ont mis cette musique sur ce putain de boutique jouet, quoi. » Tu vois, ça, mais en même temps, c'est le sujet. Donc, je sais pas à quel point Colin Trevorrow est intelligent ou débile, mais en tout cas,
c'est
là.
Dans le climat, il se planque dans une boutique de souvenirs hyper cheap de merde, made in China pourri, quoi. C'est un peu triste, mais mine de rien, le truc est assez conscient de ce qu'il est, quoi.
Ouais.
Alors que dans le troisième, dans mon souvenir, le décor est ultra générique et nul. T'as vraiment une salle avec des ordis et la grande zone où ils se battent à la fin. C'est genre, il y a du goudron, une fontaine de merde, il y a rien, quoi.
Symboliquement, c'est tout l'inverse, puisque dans le climax, le T-Rex refait le logo de Jurassic Park le plan.
Bah, tu vois, on parlait de
l'exact inverse.
En fait, ils prennent la pause. Tu demandes aux gens de prendre la pause. Ouais, le T-Rex prend la pause, le radin prend la pause, les gens prennent la pause. Déjà que tous les blockbusters sont souvent figés avec des actions et des déplacements qui n'ont aucun sens. Alors là, vraiment, Jurassic World, c'est le pompon sur la Garonne parce que les gens diraient qu'ils sont figés, qu'ils bougent pas. C'est vraiment les marques au sol, le film, quoi.
C'est Déborah qui invente des.
Non, le pompon sur la Garonne, ça existe. Oh, j'ai déjà entendu et je crois que j'ai même googlé un jour avant de faire un article.
Sur la Garonne. Tu vois.
Bon, pour parler de choses plus sérieuses, il y a aussi des trucs amusants en termes de conséquences directes de cette legacy coélisation. C'est que Star Wars, encore une fois, est un joli syndrome parce que juste après qu'il y ait donc ce méga succès de ramenant les personnages. Ils se sont dit, bah, en fait, ouvrons la voie parallèle de A Star Wars Story. Faisons des films parallèles. On va faire Rogue One, on va faire Solo. Solo sur le passé de Han Solo. Et ils voulaient faire après un film Obi-Wan, tout un tas de trucs. Et en fait, très rapidement, ça s'est cassé la gueule. Donc, on voit aussi des conséquences en termes de juste de business, de comment tu gères cet héritage, comment t'en fais un business. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont allés beaucoup trop vite. Donc, Star Wars, en l'occurrence, ils ont annulé des films, les ont transformés en séries pour gonfler leur catalogue SVOD. Là, on arrive au boom de la SVOD qui a amené à des choses qui n'auraient jamais vu le jour sur grand écran, genre la série Willow.
N'aurait jamais dû, voilà.
Non, jamais dû. Je croyais que t'allais dire Willow, oui, parce que là, je pensais à Willow. Ah, oui. Tu vois, Willow, probablement, n'aurait jamais donné un film, parce que, bah, moi, j'aime bien le premier Willow, mais je sais pas à quel point plein de gens paieraient pour aller au cinéma pour voir la suite. Du coup, c'est devenu une série, qui est fantastique, de ce que tu nous as dit, Mathieu.
Ah oui, mais c'était un mot qui me s'est infligé la chose. D'ailleurs, elle vient d'être rayée de la mémoire collective puisqu'elle n'est plus sur Disney Plus et que vu que le support physique c'est important, elle n'est pas disponible en DVD et en Blu-ray aujourd'hui. À part en la piratant, il y a aucun moyen de voir Willow. Donc
t'es un peu comme le seul témoin d'une œuvre aujourd'hui disparue.
J'étais là il y a 40 ans. Ouais, et non, c'est absolument atroce. Après, je trouve que la nullité de la série vit au-delà du côté legacy call qui est hyper nul, mais comme souvent c'est nul, elle vient de l'esthétique, d'une laideur ahurissante et d'une la photo est atroce, notamment c'est dingue, j'ai rarement vu ça.
C'est que sur l'ordi au bureau tu galérais, tu voyais rien, on voyait rien, personne ne voyait rien.
Non, mais en plus je suis le premier à défendre par exemple le fameux épisode 3 de Game of Thrones de la dernière saison en disant que finalement ils ont peut-être été un peu trop précurseurs en partant du principe que tout le monde était équipé en 4K sur des grands écrans, dans des salles complètement noires, pour pouvoir voir toutes les nuances de noir qu'ils allaient te proposer. Mais là, il y a une différence entre mettre en scène des nuances de sombre et de la purée marronasse dégueulasse. Et Willow, c'est exactement ça. Et sinon, on est dans l'énumération pure et simple de tout ce que tu connais de Willow. Et Willow, c'est un film des années... J'adore, c'est très cool. Mais... Et il y a aussi un embryon de problème dont on va parler, je pense, par la suite, qui est que vers la fin, ils essayent plus ou moins de simuler l'apparition, sans qu'on le voit vraiment, mais de Val Kilmer, alors qu'il est, il est malade.
C'est glauque, putain.
C'est très glauque, voilà, c'est très glauque. Et c'est... Ils veulent te générer une sorte d'émotion, et toi, t'es juste gêné, quoi. Tu fais, t'as l'impression de voir des adultes de 40 ans jouer avec des pâles figures qu'ils auraient créées d'un truc qu'ils aimaient auparavant. Revoyez Willow, c'était vachement bien.
Est-ce qu'il y a un peu les monstres ou pas?
Alors, c'était le seul truc que j'avais, dont j'avais concédé la qualité, du moins dans les quelques premiers épisodes. C'est qu'au début, parce qu'après ils partent dans un road trip chiant, mais au début, il y a quelques monstres qui sont été design avec des effets pratiques, etc., qui sont pas mal.
Ok. Ah, parce que je trouve que vraiment, enfin, bon, c'est pas le sujet de cette réunion, mais que le bestiaire du Willow original, il est incroyable.
Je suis dans le château, là, avec les espèces de trolls. Petits singes horribles, là, qui finissent par fondre, être transformés avec les...
Le dragon à deux têtes, voilà. Et les espèces de chiens rats, loups, je sais pas quoi, du début, là, qui sont absolument redoutables.
Qui essaient de bouffer le bébé.
Oui, tout simplement, ouais.
Mais bah, tout le côté foisonnant qu'il y a dans le premier film, c'est l'exact inverse. Dans cette série où ils se baladent dans des forêts vides pendant trois épisodes.
Personne ne se transforme en cochon comme dans le premier. Ça m'a traumatisé, gamin.
You're all pigs! Voilà. Et comble de l'ironie, la série termine ou finit, commence, je sais plus, sur le moment. Ah ouais, non, mais. Sur un moment où, tu sais, ils referment un livre, on va dire, sur la série, comme dans Shrek, quoi. et ils le placent à côté de tome 2 et 3. Tu sais, en mode, on va faire une trilogie de saison. Bon, bah, clairement, c'est foutu. Ouais, probablement un des pires trucs que j'ai noté pour écran large, je pense. Franchement, il y a de la compète, mais là, j'ai souffert.
C'est vrai que je me souviens de ta détresse à l'époque.
Ouais.
Je pensais aussi à un truc comme Twin Peaks saison 3, quand ça arrivait en 2017. Est-ce qu'il n'y a pas un côté legacy quel là-dedans? Tu
Alors non.
26 ans après.
Alors non, justement.
T'es
non,
très fan de Twin Peaks?
Oui, je suis très fan de Twin Peaks. Et en fait, cette troisième saison, quand elle a été annoncée, je pense que comme énormément de gens... C'était un événement pour moi, mais en fait Lynch là s'est amusé à faire justement tout l'inverse, c'est-à-dire que il y a absolument rien pour satisfaire les fans de la des saisons originales, c'est-à-dire que
il y a pas plein de personnages qui reviennent, qui réapparaissent.
Si. Alors si, mais par contre ne serait-ce que Dale Cooper, la moitié du temps en fait. Déjà, il y en a deux.
Oui.
Et il y en a un, c'est la version méchante de Dale Cooper qui est toujours possédée par Bob. Et l'autre, c'est un mec complètement à l'ouest. Je sais plus exactement quel est son problème, mais voilà. Mais qui, en tout cas, il est complètement à l'ouest. À aucun moment, tu retrouves le Dale Cooper que tu connaissais. Genre jamais, même si c'est Kyle MacLachlan. Laura... Oui, attends. Non, du coup, c'est pas Laura, c'est sa sœur.
J'ai pas vu la saison 3. J'ai vu que les premières saisons.
Moi, je l'ai vu. Je suis incapable de te répondre. Donc,
j'essaie de mettre à la place de quelqu'un qui a vu que la saison 1 et qui est en train de faire quoi? Possédé par Bob.
Oui. Non, mais oui. Puis alors, on retrouve un peu Norma. D'ailleurs, je crois que malheureusement, l'actrice est décédée entre temps. Enfin, oui, on retrouve plein de personnages, mais en fait, à aucun moment, on te montre une réelle continuation de leur histoire. À aucun moment, on rebascule dans un schéma d'enquête où on va t'apporter des réponses. Au contraire, ce n'est que de nouvelles questions, c'est extrêmement expérimental, donc vraiment rien n'est fait pour te rendre les choses faciles, justement pour te bercer de nostalgie ou quoi. Tout est juste extrêmement compliqué à saisir et c'est très très beau, hein. Mais du coup, moi qui arrivais là-dedans avec justement un petit peu une volonté de fan, de me dire bon, allez, je vais avoir des réponses, on va retomber un peu dans le même genre de format, du côté très agréable des premières saisons, du coup qui était à la fois du Lynch pur, en même temps qui était narratif, donc il y avait un peu le côté réconfortant de on a une histoire qu'on comprend et qu'on suit tout en ayant la folie de Lynch. Là, on a que la folie de Lynch.
La première saison, ça.
Ouais. Non mais oui. Mais du coup, là, on a que la folie de Lynch et en fait, c'est anti-satisfaisant. C'est très beau par plein d'aspects, mais ça n'a rien du Legacy Quel parce que rien n'est fait pour te flatter dans aucun sens du terme.
Une sorte de piège comme Matrix Resurrection qui a un peu énervé ou repoussé pas mal de gens, quoi. Mm.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment des pièges, quoi. Ouais. C'est le terme, je pense.
Ce qui est plutôt amusant à ce stade-là. Et qu'est-ce que vous pensez de Dr. Sleep qui pourrait être une Legacy Quel? Donc la suite de Shining, est-ce que ça rentre dans cette case?
Je pense que oui. Moi, j'aime pas le film. Mais je pense que c'est...
Pas très fan du film, même si je reconnais des qualités formelles indéniables et le talent de, évidemment...
Rebecca Ferguson.
Aussi.
Ewan McGregor.
Je parlais du réel, mais...
Mike Flanagan,
pardon. Ouais.
Non, mais oui, enfin, bon, je vais pas rentrer là-dedans.
Ce petit mouet d'outre-tombe.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Oui, bon, on a beaucoup... En fait, là, finalement, ce qui te donne l'envie, c'est le décor. T'as la fameuse dernière
séquence.
Oui,
parce que là, peut-être que tu disais tout à l'heure, c'était le T-Rex qui était la star de Jurassic World. Là,
c'est
la star, c'est l'overlook. Quoi, parce que finalement...
Finalement, ça me fait penser à Ready Player One, qui est un film qui a des milliards de défauts, voilà, je suis le premier à dire que c'est pas le meilleur film de Spielberg, très loin de là, mais qui a un côté un peu...
Mais il y a un dinosaure, donc ça va.
Et King Kong dans la même tête. mais qui est aussi un peu un piège, mine de rien. Hein.
Ouais.
Et qui a un peu cette volonté de faire une sorte de super commentaire sur l'état de la pop culture actuelle. Et le fait est qu'il y a une séquence entière qui reprenne un peu cette idée de on se balade dans l'overlook complètement reconstitué numériquement, où du coup plus rien n'a de sens, tu vois, il n'y a plus rien à de texture, enfin tu ça n'a aucun sens de le faire, mais ils en sont très conscients dans le film, en fait. Je trouve que je sais plus si Spielberg a écrit ce film ou s'il a seulement été réel, mais en tout cas il y a une forme de pression, on va dire, sur Dr. Sleep, et plus généralement, on va dire en général, cette façon d'utiliser les décors comme une sorte de temple, en fait, qui est assez intéressante. Ouais.
Alors justement, tu parles de ça, cette idée de tu rouvres les portes d'un décor, mais en fait, tu le morcelles pour en faire comme la tour hantée à Disney. En fait, il n'y a plus le reste, il y a juste les trucs qui t'intéressent. Donc, il y a la chambre machin, il y a la baignoire, la salle de bal. Ça me fait penser à des trucs que j'ai pas du tout aimé dans Terminator Genesis et dans Halloween Kills. C'est le fait qu'ils remettent en scène, qu'ils te replongent dans des scènes des films cultes. Donc, Terminator Genesis, pour rappel, au début de cette merde, ils reviennent en 84. Et du coup, ils réécrivent l'histoire parce qu'au moment où Schwarzenegger, donc le premier Terminator, arrive à Los Angeles pour traquer Sarah Connor et la tuer, là, en fait, il y a un autre T-800 qui avait été ramené avant dans le passé et qui est là pour arrêter le T-800. Donc, en gros, t'as un vieux Schwarzy qui arrête un jeune Schwarzy, pour faire très simple. Et dans Halloween Kills, t'as des moments de flashback qui se passent en 78 pendant le premier Halloween et on te montre des scènes coupées inventées où tu vois des personnages. Moi, je me suis vraiment dit, j'aime beaucoup, beaucoup le premier Halloween et je me suis dit, je m'en tape totalement. Les scènes coupées avec les flics random qui discutent à côté des poubelles, mais qu'est-ce que je m'en fous? Et j'ai l'impression que le film se fout de ma gueule, mais me donne une fausse carotte que je suis censé vouloir apprécier sur des trucs dont je me contrefous.
Ouais.
Donc là, c'est vraiment, on transforme le film en musée. En fait, j'ai l'impression qu'on me donne des lunettes 3D, qu'on a fait une version 3D du truc et qu'on me dit, tu peux te balader dans le décor avec tes potes, ça va être trop drôle. Mais t'as plus du tout l'essence, en fait. J'ai juste un décor en plastique.
C'est exactement ce qu'il y a dans Ready Player One. Quand tu dis transformer le film en musée, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout n'est plus que musée.
Moi, je trouve que finalement, Dr. Sleep, c'est un peu la version intello de ça. Alors, intello, parce que c'est, Shining, c'est le premier film cité justement par tous les cinéphiles qui veulent montrer qu'ils sont des vrais cinéphiles et qu'ils n'aiment pas que Spielberg et qu'il faut citer un Kubrick. Mais du coup, moi, je trouve qu'effectivement, toute la première partie qui est plus flanaganesque, c'était risqué.
Après, c'est moi qui invente des mots.
Elle est déjà extrêmement longue, mais du coup, elle a très très peu de personnalité, je trouve. En comparaison des scènes du coup qui recréent l'ambiance du Shining original, qui du coup là bah en fait sont tellement stylisées, sont tellement dans la copie exacte de la photographie de l'époque, du style de Kubrick, bah qu'en fait, enfin je trouve que il y a vraiment un truc de bah en fait ouais cette deuxième partie c'est un peu, enfin cette dernière partie en tout cas c'est un peu ce qu'on avait envie de voir, mais du coup à quoi sert le reste?
J'allais dire à quoi sert même celle-là, puisque là on parle de fétichisme quand tu recopies le truc et tu fais
côté du coup on va effectivement vous offrir un petit peu la possibilité de se rebalader dans ces décors ou d'en voir un petit peu plus, et en même temps on reproduit tellement les mêmes cadres qu'en fait on se balade pas tellement plus, mais là où je trouve que ça rentre dans le Legacy Quell, c'est donc on ressort ce décor, il y a de nouveaux personnages, mais il y a aussi les anciens, parce que même si c'est pas les mêmes acteurs, on ressort le personnage de Jack Torrance, de Wendy, etc. D'ailleurs là où en plus je trouve ça bizarre, parce que il nous donne à voir des scènes du coup qui n'existent pas dans l'original, un petit peu la vie de Wendy.
Je me souviens pas du tout de tout ça, moi.
Je crois qu'il y a des scènes qui n'existent pas dans l'original où Wendy et Danny, c'est après qu'ils soient partis de l'hôtel ou c'est avant, je m'en rappelle plus.
Ah, bah, rajoute à la liste des trucs à revoir avant ou après Les Bons Étoiles, j'ai pas encore décidé.
Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est pareil, ça amoindrit en fait la force. Sauf que, en admettant que le film ait vraiment un impact sur celui de Kubrick, et je pense pas, mais amoindrirait la force en tout cas de ce qu'on aimait dans celui de Kubrick, parce qu'encore une fois, c'est presque aussi important ce qu'on montre pas que ce qu'on montre. Et du coup, il y a un côté un peu profanateur que j'aime pas trop, et qui, voilà, fait que le film, en fait, il ne fait que regretter l'ancien sans rien proposer de fort en échange. Et du coup, bah, ouais, pour moi, c'est un Legacy Quell vraiment pour ça.
Bah, tu parles de profanateur aussi, vachement intéressant, vu tout ce qu'ils font sur les visages, soit de gens qui ramènent littéralement à la vie parce que les acteurs et actrices sont morts, soit ils ramènent une version de l'acteur, du genre Harrison Ford rajeuni, ou Jeff Bridges rajeuni dans Tron. Moi, je trouve qu'il y a parfois des choses assez jolies. Alors, je suis pas fan d'Indiana Jones 5, que je trouve nul, mais dans Tron Legacy, je trouve que c'est assez joli de voir la version jeune de Jeff Bridges. Au-delà de ce qu'on pense techniquement, je trouve que thématiquement dans le film c'est assez beau parce qu'ils s'affrontent, à la fin il essaie de le retenir, à l'autre il se sacrifie, enfin il y a un truc, je trouve que la fin est super belle. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là? Est-ce que ça vous dérange en fait? Parce que je sais qu'il y a plein de débats sur est-ce que c'est normal de ramener, on n'a pas parlé des morts encore, parce que dans Rogue One il y a Peter Cushing qui est ramené, c'est quoi les autres exemples de gens morts?
Il y a Carrie Fisher.
Ouais. Harold Ramis dans
Soit l'héritage.
Ouais.
Je trouve qu'il y a une escalade, c'est marrant dans ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'au début, on ramène les vieux acteurs, ensuite on ramène les vieux décors. Là, on en est venu à parler de ramener la vieille photo, et même le même cadrage, enfin, c'est le même style, quoi. Et ouais, là, on en arrive aux gens morts. Et effectivement, je pense que le cas de Peter Cushing, par exemple, est quand même hyper, hyper border. Parce que, évidemment, qu'ils ont l'aval de descendants, de gens qui, etc. Et là, actuellement, je pense que tous les acteurs hollywoodiens sont actuellement en train de signer des clauses qui leur permettent d'utiliser,
pour autoriser les
studios à utiliser leur image à jamais, en fait, ce qui est un peu flippant quand ils pensent. et leur faire faire des choses. C'est dingue quand même. Et je trouve que le cat crushing est assez flippant parce que quand il est décédé, c'était une technologie qui n'était pas du tout développée. Alors certes, probablement que ses descendants, enfin juridiquement, ça doit être évidemment ok, sinon ils ne l'auraient pas fait. Mais on peut se demander quand même quelle éthique il y a à ressusciter comme ça un acteur qui, je sais, c'est qu'un personnage, mais les acteurs ont le contrôle des personnages qu'ils incarnent, des scripts qu'ils valident. Enfin, je veux dire, c'est pas des marionnettes non plus, tu vois, ils ont quelque chose à dire. Donc ouais, je suis un peu... Je trouve que c'est une pente extrêmement glissante, en fait. Harold Ramis, dans, pareil, il y avait sa fille, etc., qui était là derrière. Mais en fait, c'est glauque, quoi. C'est hyper glauque. Il est reconstitué, tu sens. Il y a la vallée de l'étrange, tu sais, en plus. Donc, t'as vraiment l'impression de retrouver un genre de fantôme reconstitué. Alors, en plus, dans SOS Fantôme, c'est littéralement le cas.
S'appelant Afterlife, ouais, c'est encore plus lourd de sens, quoi.
Et sachant que vraiment, le but total, dans le cas de Tarkin et dans le but des SOS Phantom, c'est une démonstration technique, deux, un argument marketing. Est-ce que prêter des choses à des gens qui sont décédés, dans le seul but de ramener des gens en salle, c'est vraiment une bonne chose? Je ne sais pas, franchement. Hein. Et je trouve qu'il y a une pente d'autant plus glissante que on pourrait se dire qu'actuellement, certains acteurs, peut-être... échappe à des rôles ou à une carrière, tout simplement, parce qu'ils refusent de mettre des noms sur des clauses qui autoriseront les studios à utiliser leur image au cas où ils deviendraient célèbres, même quand ils seront morts. Et je les comprends, peut-être qu'ils n'ont pas envie que leur image se retrouve dans le prochain deepfake dans 15 ans, d'un truc sur lequel ils n'auront aucun contrôle.
En plus, ça devient vertigineux, parce que je crois que pour Indiana Jones 5, ils avaient vraiment puisé dans le catalogue de Lucasfilm et Disney pour pas juste scanner Harrison Ford aujourd'hui et le rajeunir, mais vraiment prendre le Harrison Ford des films, dans des films filmés par des cinéastes, maquillés et tout ça, donc vraiment une idée du Harrison Ford jeune héroïque pour en faire une sorte de mix et de le recréer une version jeune face à lui. Donc en fait, c'est pas Harrison Ford jeune, c'est genre tous les personnages qu'il a incarnés jeunes qui sont mixés par une IA, je ne sais quel logiciel, pour faire, pour un acteur, ça doit être tellement étrange de se voir en disant c'est moi, c'est genre la version parfaite de moi qui mixe absolument toutes mes jeunes rides entre ma vingtaine et ma trentaine, qui est face à moi et qui est mis sur moi. Ça doit être trop bizarre, quoi.
Ah ouais, ouais. Enfin, moi, je trouve que pour le coup, alors encore, quand les acteurs sont vivants pour donner leur accord, grand bien leur face. Moi, je trouve ça déjà glauque. Mais c'est vrai que quand ils sont morts, pour moi, il y a rien qui puisse défendre ça, vraiment d'un point de vue moral. Alors, je suis peut-être un peu coincé ou je ne sais pas. Mais pour le coup, là, je trouve ça dingue que les héritiers acceptent de vendre à ce point-là l'âme de leur défunt. Enfin, je sais pas. C'est peut-être une conception trop. Trop vieillotte, trop coincée des choses, mais moi je...
Bah, l'exemple pire, c'est peut-être Christopher Reeve aussi dans Superman, parce que là, en fait, il y a des moments où je me dis dans SOS Fantôme, l'héritage, c'est pas un film que j'aime beaucoup, mais c'est un film que j'ai pas détesté à l'époque, même si j'aime moins la fin, parce que je le trouve vraiment tous les pires temps du Legacy Quell, mais je me dis, c'est toute l'équipe qui a fait le film avec lui, des gens qui étaient ses amis, son entourage, donc je me dis, évidemment, c'est pour la thune, et ça rend le truc un peu glauque et minable. Mais au moins, tu peux te dire symboliquement, il y a sa fille, il y a sa famille, il y a un truc, ok, ils sont là, peut-être qu'ils voulaient rendre hommage, peut-être qu'ils sont convaincus que c'était une belle manière pour lui de symboliquement faire ses adieux à la saga et qu'il existe dans le cœur de son public. Mais Christopher Reeve, qui apparaît comme un vulgaire figurant dans un coin d'image dégueulasse avec une tête qui ressemble à rien, sauf à Funko Pop, tu vois, j'ai du mal à voir quelque chose de joli là-dedans. Je me dis, s'il n'y a rien de noble et de poétique là-dedans, c'est juste vraiment le pire. Du pire du business à ce stade.
Après, dans le cas SOS Phantom, je trouve ça hypocrite, du coup. Tu vois ? Vraiment le côté, on est soudés, on est amis. Alors déjà, on est amis, on est soudés dans la fiction. Enfin, dans la réalité, je ne sais pas, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est tellement facile de, du coup, transformer la réalité en fiction. Tu vois, enfin, c'est ça, maintenant, tout devient de la fiction. Si tel acteur est décédé et qu'il joue le super pote d'un autre acteur, alors que ça tombe, il se détestait dans la vraie vie, peut-être, on ne sait pas, tu vois. Et ils vont les faire rejouer des gens qui s'adoraient. Oui, alors fondamentalement, ça ne va pas changer notre vie à nous, mais encore une fois, c'est une pente glissante.
Non, mais oui, parce que du coup, là, en plus, on parle que du cas des stars, mais l'un des objets de la grève des acteurs il y a quelques temps, c'était quand même que voilà, tous les nouveaux acteurs, ne serait-ce que figurants ou quoi, le but des studios, c'était de leur faire, comme tu le disais, à chaque fois signer une clause qui leur permettrait de scanner les acteurs et en fait de les réutiliser numériquement sans que les acteurs aient besoin de revenir tourner des scènes. Et du coup, en fait, faire du fric, faire des films et donc du fric avec des gens qu'on paye pas, en fait, tout simplement, parce qu'on ne les fait pas venir, parce qu'on ne les fait pas tourner. Et du coup, même au-delà du point de vue éthique, moral, machin, d'un point de vue business, mais c'est terrible de faire ça. Enfin, ça peut tuer le métier. Alors là, il se trouve que ils ont plus ou moins obtenu gain de cause, mais vu l'allure à laquelle progresse l'IA, à mon avis, ça va revenir sur le tapis très vite, ce genre de problématique. Et je trouve ça assez terrifiant.
Et en même temps, ça semble assez naturel, puisque tout à l'heure, on parlait de Jurassic World, la vraie star, c'est le T-Rex, la vraie star de Dr. Sleep, c'est l'hôtel. Du coup, tout ça, c'est des trucs qui sont faux, qui n'existent pas. Donc en fait, si ça, c'est le même argument que de ramener, je sais pas, Alan Grant ou un héros de Star Wars, finalement, pourquoi ne pas le traiter de la même manière? C'est un truc virtuel, en fait, les gens viennent pour ça, tu vois. En fait, finalement, si je suis très cynique, c'est la même manière, quoi.
C'est vraiment la suite logique de cette culture de la nostalgie qui, à l'origine, paraissait être très inoffensive. Voilà, c'est la petite friandise, quoi, qui au fur et à mesure, au moment où, comme on disait, les caméos sont devenus des morceaux de film à part entière, c'est devenu artistiquement discutable, et maintenant on arrive dans le moralement discutable, quoi. Mmh. Ouais, il y a vraiment une escalade qui fait un peu flipper et on se dit putain, c'est quand que l'industrie hollywoodienne va commencer à se dire faudrait peut-être qu'on creuse d'autres pistes pour divertir notre public. Je sais pas, par exemple les effets spéciaux au hasard, tu vois.
C'est vrai que si d'un côté tu vides de substance la narration en faisant le multivers où en fait t'es vraiment dans une pièce, t'ouvres toutes les portes et des gens apparaissent, pourquoi multivers, et que de l'autre t'as plus qu'une considération humaine. Bon, après on sait que c'est un business, on sait que c'est pas évidemment, mais si tu dis en fait régulièrement on en rigole en se disant, est-ce que le Joker de Heath Ledger va réapparaître un jour? Est-ce que quelqu'un peut empêcher, va empêcher ça? Parce que évidemment que ce serait un truc de business juteux qu'à un moment Joaquin Phoenix se retrouve face à Heath Ledger après avoir ouvert une porte dans le générique, quoi.
Surtout.
C'est vrai que c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui en se disant, oh bon non, quand même pas, mais en même temps, je pensais pas avoir un Christopher Reeve dégueulasse qu'elle apparaître dans
ils
un
ils l'ont forcément en tête, hein, je pense. Et d'ailleurs, ça impacte des acteurs. On voit les résultats aujourd'hui. Tu parlais de The Flash. Mais Nicolas Cage, il a dit en interview, moi je suis venu filmer un truc, mais ce que j'ai filmé c'est pas dans le film. C'est-à-dire que lui il a tourné un truc en pensant que ça allait être quelque chose, il a signé, je sais pas, probablement une clause qui disait qu'il pouvait utiliser son image comme il voulait, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Probablement dans l'enfer absolu de production qu'a été ce film, sur des années et des années, eh ben, ils ont récupéré sa tronche, ils l'ont remodélisé numériquement, et c'est, mon dieu, une horreur sans nom, ils lui ont fait faire ce qu'ils voulaient, quoi.
Et en plus, cet extrait est particulièrement symptomatique d'une, tu disais tout à l'heure, on crée une nostalgie pour des gens qui n'ont pas vécu la bonne période, ce que tu disais, Judith, était tout à fait normal, et ça a toujours existé. Et là, tu crées l'attente nostalgie d'un projet qui n'a jamais existé en créant au moment où il existe le fait qu'il y a un recul sur le fait qu'il avait fait exister, mais en fait il existe que sur des forums sur internet et dans des articles de gens qui racontent ce que ça aurait dû être. Donc c'est le stade ultime du vide, en fait, vraiment le vide, la nostalgie sur le vide. Et à côté, tu mets en parallèle Christopher Reeve qui a existé, qui a fait des films, qui a été une superstar grâce à Superman, et tu mets les deux à côté, tu dis en fait il n'y a plus du tout de juge de quoi que ce soit. Mais en fait,
si on pousse plus loin, finalement, entre ça, tout ce que tu peux faire avec le numérique et la logique qu'il y a derrière le Legacy Quell, et comme tu dis, le fait de créer une fiction finalement derrière la nostalgie, de infuser une nostalgie dans les gens qui n'est pas réelle, Hollywood est en train de créer sa propre histoire. C'est du révisionnisme de sa propre histoire, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça un poil dangereux parce que ça va de pair aussi avec une disparition assez inquiétante, je trouve, de la remise en question de leur choix par le grand public en règle générale, d'ailleurs système de fandom, c'est-à-dire que tout est finalement pas si mal, tu vois, parce que c'est pas si grave finalement.
Bah, sauf quand c'est Star Wars 8.
Mais c'est hyper difficile à encadrer comme notion, parce que finalement la nostalgie c'est toujours un regret de quelque chose que tu n'as plus, que tu n'as pas ou que tu n'as plus. Et donc effectivement, si on est capable d'avoir de la nostalgie pour des époques qu'on n'a pas connues, en fait c'est toujours l'expérience, enfin comment dire, le regret d'une expérience que t'es pas en train de faire, que t'as peut-être déjà faite mais que t'es pas en train de faire. Et du coup, oui, si tu peux avoir la nostalgie d'une époque que tu n'as pas connue, pourquoi est-ce que tu peux pas avoir la nostalgie d'un film qui n'existe pas, tu vois? Donc c'est très bizarre, enfin c'est vertigineux en fait comme idée, mais par contre c'est vrai qu'elle est assez logique, et un peu comme ce que tu disais sur à quel moment est-ce que c'est différent finalement de faire de recréer un T-Rex qui n'existe pas et un acteur qui n'est qu'une idée virtuelle. Bah ouais, en fait, où est-ce que tu mets la limite et jusqu'où on va faire des boosts de plus en plus boosts?
Alors attention, escalade véloce, mais je trouve que...
le point Godwin.
politiquement, le fait de faire du révisionnisme sur ton passé, ça a jamais été une très bonne idée.
Voilà. Oui.
Et bah, cette réunion prend une tournure inattendue. Sinon, pour on va peut-être boucler ce sujet parce que j'ai l'impression que sinon quelqu'un va être viré en fait, tout simplement. qu'est-ce qui fait un bon Legacy Quell? Je sais qu'on n'est pas d'accord si on doit essayer de mettre le doigt sur. En gros, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'un Legacy Quell, si un truc rentre dans cette catégorie, n'est pas forcément bon ou mauvais. Il y a des bons exemples, des trucs. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur les Scream, les Jurassic et tout ça. si vous pouviez mettre le doigt sur des trucs qui sont quand même des bons exemples, des bonnes démonstrations, que ce soit un personnage ou une scène, des trucs comme ça. Par exemple, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans l'escrime? Parce que j'ai toujours pas compris, je vous dis vraiment, quoi.
Ouais. Si, si, bah ouais, du coup, effectivement, dans le Scream 5, moi, je trouve, j'ai l'impression que le film, tout en se reposant beaucoup, et je suis pas du tout en train de dire que c'est un chef-d'œuvre, on est d'accord, qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais, je trouve que, Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Holpin proposent des trucs vraiment intéressants dans leur manière de réactualiser un peu le slasher. Avec, encore une fois, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la mise en scène des meurtres, que je trouve très frontale, très, comment dire, mince.
Médiocre.
Non, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'effets, tu vois, dans mon souvenir, il y a assez peu de musique, il n'y a pas
un
de...
Un peu sobre, alors.
Ouais, il n'y a pas plein d'effets de caméra, enfin, ouais. C'est... Et en fait, on est vraiment juste dans la description en temps réel et vraiment la description nue, quelque part, de l'horreur d'un meurtre, l'horreur d'un coup de couteau qui sont pas plein de bruitages, pas plein d'effusions de sang partout. Et en fait, on est vraiment juste dans la réalité de la chair qui se fait pénétrer par une lame et du coup, l'horreur que ça procure et qu'on a perdu, justement, au fur et à mesure des slashers qui sont dans la surenchère des faits, etc. Donc, pour moi, il y avait une tentative de revenir à la véritable horreur plutôt que le crime et la tuerie comme juste pur élément de divertissement. Donc ça, je trouvais ça très intéressant parce que
c'est une sorte de nettoyage pour un peu oublier les effets de dérive. Par exemple, Scream 3 qui avait de plus en plus oublié l'horreur pour arriver à un truc un peu plus comique, gaguesque.
Oui, c'est ça. Donc à la fois, on est dans la continuation et en même temps, il y a un vrai retour aux sources, enfin, qui interroge cette source, tu vois, et la manière dont elle est mise en scène. Donc je trouvais ça, là-dessus, réussi et vraiment intéressant. Puis jusqu'à un certain point, jusqu'au 5, je trouvais qu'ils arrivaient à peu près à avoir un discours méta qui commençait vraiment à tourner en rond, mais qui apportait encore quelque chose. Bon, dans le 6, c'était plus compliqué. Ouais.
Peut-être qu'on peut... Bon, je suis pas le plus grand fan de Hellraiser, mais en voyant le dernier que j'ai trouvé assez bof, il y a aussi cette idée de... on nettoie pas juste les mauvaises suites, mais on essaie de revenir à quelque chose d'un peu plus épuré et de retirer tous les trucs qui se sont accumulés, dont plus personne ne savait quoi faire, jusqu'à arriver au DTV super moisi, et de revenir à quelque chose d'un peu plus noble. Donc, on parlait de mise en scène sur Scream, Hellraiser avait aussi ce côté-là, de revenir à une mise en scène beaucoup plus... sérieuse et respectable.
Certes, après moi, Hellraiser, j'ai trouvé ça sympa en plus, mais je trouve que j'étais très étonné en fait en le voyant que ce soit un slasher, alors que ce qui fait que les films Hellraiser, les suites, sont détestés, c'est justement que ce sont des slashers bas du front. Mm. Alors c'est un slasher de bien meilleure qualité, bien sûr, mais c'est assez curieux, je trouve, comme choix. Donc je pense pas que ce soit le meilleur exemple en réalité. C'est quand même un film qui est un peu compliqué, qui certes est un peu meilleur et tout, mais...
Les Halloween, toi t'aimes bien le Halloween 2018, pourquoi il se démarquerait des autres
Déjà, à l'époque, c'est pas qu'il était... C'était pas le premier du tout, mais dans le champ de l'horreur, il y allait aussi Franco quand même, il y a peu de gens qui l'ont fait. Et ensuite, je trouve que le traitement du personnage de Laurie Strode est quand même très bien vu. Et c'est exactement la même chose que sur Scream, le film est hyper violent et hyper sec. Et ils ont vraiment réussi à revenir à ça. Bah, le slasher, c'est toujours un bon exemple, puisqu'en fait, il y a eu le néo-slasher depuis, la gaudriole du n'importe quoi. Et là, les mecs, ils se sont dit, bon, voilà, on va revenir à une forme de violence. Voilà, une vraie forme de violence, tu vois. Et c'est d'autant plus salvateur que Halloween, quand même, avant ça, tous les projets qu'il y a eu, c'est terrifiant. Hein, parce que à un moment, avant que Miramax s'allie avec Blumhouse pour faire Halloween 2018, les droits sont passés un petit temps chez les Weinstein. Mmh. Qui avait des projets ahurissants. Alors, ils voulaient faire une suite au film de... Parce que c'est eux qui ont produit, du coup, les films de Rob Zombie. Ils voulaient faire un troisième. Rob Zombie voulait pas. Il devait s'appeler Halloween 3D, bien sûr. Ils ont engagé les mecs qui ont fait Hell Driver avec Nicolas Cage. Je sais pas si vous avez vu cette chose. Voilà.
Je crois que je l'ai vu. C'est le truc avec Amber Heard.
Ouais.
Hell Driver, parce que je voyais, du coup, la Hell Driver de Kill Bill.
Non. C'est l'origine story. Ouais.
D'ailleurs, pour l'anecdote, ces gens-là, ensuite... On quittait le projet pour aller faire un Hellraiser qui s'est jamais fait. Et ensuite, pire encore, ils ont essayé de faire le film avec d'autres réalisateurs, dont Adam Wingard, par exemple, je crois. Et surtout, ils ont voulu en faire un fan footage 3D. Hein. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal, Halloween 2018, si tu veux.
Un fan footage, mais 3D.
C'est...
Alors, en fait, c'est le projet qui était...
Ah ouais.
Je suis pas certain, parce que le projet s'appelait Halloween 3D. Et à un moment, ils ont dit, on va en faire un fan footage. Théoriquement, le projet s'appelait toujours Halloween 3D, mais est-ce que du coup, il aurait quand même tourné en 3D?
J'en sais rien. Le contresens, enfin, oui.
J'en sais rien du tout. Voilà.
Ok. Oui, donc en fait, vous n'avez pas répondu à ma question. Sur qu'est-ce qui pourrait faire un bon Legacy Quell, en gros, c'est quand le film est bien. D'accord,
oui,
merci beaucoup.
Il y a un Legacy Quell que j'aime bien, c'est Blade Runner 2049. Alors, ça fait un peu redite parce qu'on en a parlé à la revue sur Denis Villeneuve. Mais je trouve que la manière dont tu utilises Harrison Ford est assez intéressante. Puisque tout le postulat du film de Villeneuve et de dire, vu que Blade Runner dépeint une époque qui est déjà dépassée dans le futur, enfin, c'est-à-dire qu'on a passé la date du futur de Blade Runner 2049, ouais. On va aller plus loin et réfléchir à comment ce futur cyberpunk peut évoluer. Et lui, sa réponse, qui est en accord avec toute sa filmographie, c'est vide. Le vide, le brutalisme, le plus rien.
Ouais.
Et Harrison Ford, c'est une sorte de relique perdue au fin fond de ce vide. Il représente vraiment quelque chose. Il représente ce futur laissé derrière et qu'on a oublié dans un coin de ce monde-là où il n'y a même plus de gens, où la scène des Tears in Rain à la fin, elle est refaite sans le dialogue. C'est juste un mec tout seul qui pleure. Je trouve que du coup, alors, on aime ou on n'aime pas, mais ça a un sens non seulement dans la narration, mais dans l'esthétique générale du film qui lui donne un cachet assez particulier. Alors après, je trouve qu'on est aussi un peu dans la catégorie des films pièges dont on parlait auparavant, parce que comme je l'avais dit à la réu de Villeneuve, c'est carrément un anti-blockbuster ce film, hein. Il y a zéro action, c'est hyper itéré, hyper lent, dès qu'ils reprennent des gens connus, c'est pour justement en faire ces genres de coquilles vides, donc oui, effectivement, c'est un cas particulier, mais au moins, ils ont essayé d'en faire un truc.
Bah, en fait, voilà, ce qui fait un bon Legacy Quell, je pense, c'est que malgré tout, c'est un film qui, tout en admettant son héritage, réussit à exister en dehors de cet héritage. Et en fait, c'est assez rarement le cas. Mais alors, du coup, effectivement, c'est le cas de Blade Runner 2049, c'est le cas de la saison 3 de Twin Peaks. Voilà. C'est pas le cas d'énormément d'autres.
Moi, je dirais Tron Legacy, parce que même s'il respecte scrupuleusement les codes, je trouve que déjà l'utilisation d'un Jeff Bridges rajeuni à l'intérieur de, j'allais dire de la matrice, à l'intérieur du jeu, fait que le rendu numérique, l'Uncanny Valley, est assumé et fait partie du récit, parce qu'en fait, bah, t'es dans un monde virtuel, donc évidemment, c'est faux. Et en plus, je trouve que le film, c'est un peu comme si c'était dit Joseph Kosinski, et toute son équipe, le cadre est très rigide, du coup, faisons un feu d'artifice de son et de lumière, et en fait, ça sera ça l'argument. Donc en fait, t'es venu pour, le Legacy Quell, on respecte comme un slasher, tu sais, les codes, voilà, c'est vraiment un truc étape par étape, mais il y a quelque chose qui se greffe dessus. Donc vous disiez dans les scrims et tout ça, il y a un truc de mise en scène beaucoup plus épuré, beaucoup plus brutal et tout. Donc tu reviens à une proposition qui te donne un peu ce que tu venais chercher au tout début de la saga, et Tron Legacy donne un truc qui pour moi était hallucinant et reste un peu unique dans son genre. Donc comment tu viens et t'as quelque chose. Donc le Legacy Quell est un prétexte pour quelque chose.
Et après, je trouve qu'il y a dans de très rares cas l'idée de, on prend l'aura du premier film et à travers le Legacy Quell, on essaye de raconter quelque chose avec, et on en a déjà parlé, mais c'est Candyman, quoi, qui vraiment prend le film original et développe le concept même qui le motive.
Ou Matrix.
Voilà.
Ce sont les exemples un peu extrêmes, mais je pense qu'après Matrix, tu peux plus rien faire.
Ouais, non, là, ils ont...
Et même Matrix lui-même s'auto-torpille pendant le film.
Ah oui, non, mais
et donc ne marche pas.
C'est un genre de sabotage.
Ouais. Et alors, j'ai regardé un peu ce qui pourrait nous attendre à l'avenir. Alors, bon, il y a une part de moi qui a un peu envie de voir Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. revenir dans Souviens-toi l'été dernier 3, sachant qu'il y a un 3 qui existe pour de vrai sans eux, donc a priori,
c'est pas la part de toi qu'on a envie de découvrir.
Il y a le flic de Beverly Hills 4, dont je me fous, mais qui arrive, donc j'imagine que ça va être comme Bad Boy, ça va être nul, mais ça va marcher. Il y a 28 années plus tard qui arrive. Ça va être intéressant, parce que Cillian Murphy a dit qu'il aimerait revenir, même si c'est pas officiel. À quel point ils vont traiter ça? Moi, j'aime beaucoup les deux. Je crois que toi aussi, Mathieu, t'aimes les deux.
J'adore le deux.
Toi, je lui dis, t'aimes les deux.
Ouais.
Donc ça va être intéressant. Je sais pas ce qu'il pourrait faire, mais bon, vu l'équipe qui est impliquée. Alors moi, je me pose de grosses questions sur Alien Romulus, hein, aussi, parce que ça arrive en août. Est-ce qu'ils vont essayer de rattacher ça à un héritage? Est-ce que Amanda Ripley va en faire partie? Je trouverais ça extrêmement étonnant qu'il y ait aucun lien avec aucun film. Il y a une part de la mythologie qui est quand même énorme et qui est extrêmement précieuse pour les gens. Donc,
Qui en premier arrivera à faire céder Sigourney Weaver?
Mais même sans ça, même sans qu'elle revienne, je me dirais, un des personnages, c'est Amanda Ripley. Et tu le découvres dans la promo, ça va être lâché, tu le découvres à la fin. À la fin, il rencontre quelqu'un, c'est Amanda Ripley, qui est donc la fille de Ellen Ripley, qui a été évoquée dans Alien le Retour, qui est l'héroïne du jeu vidéo Alien Isolation.
Ce serait intéressant dans ce cas-là, parce que du coup, ce serait un Legacy Quell d'un jeu vidéo qui est lui-même très sous la nostalgie de l'original.
Ouais.
On saute une génération là, carrément, tu vois.
Mais tu vois, comme on se place avec un film qui se déroule entre Alien le 8e passager et Alien le Retour, et là, tu te dis, vous placez déjà à un endroit, c'est pas anodin, et ils ont pas l'air de miser à fond sur le rétrofuturisme de la technologie, donc mon questionnement. Il y a des trucs aussi, je m'interroge, parce que tout le monde s'en fout, mais Kelsey Grammer est revenu dans The Marvels, pardon, pour reprendre son rôle de Beast qu'il a incarné dans X-Men l'affrontement final et Days of Future Past, donc je sais que le monde attend ça avec impatience, mais il y a quelques ponts qui vont se créer sur des passages de relais. Il y a un nouveau Ocean's 11, qui s'appellera pas 11, qui pourrait être fait avec peut-être Margot Robbie et Ryan Gosling. Est-ce qu'ils joueraient des personnages qui sont des descendants de Danny Ocean, de quelqu'un, je sais pas, tu vois, peut-être. Est-ce que Pierre Dacarry va revenir? À un moment, il y avait un projet avec Margot Robbie. Est-ce que quelqu'un va un jour se révéler être la fille de... Comment il s'appelle déjà? Jack Sparrow?
Tous les projets actuels sont avec Margot Robbie.
Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui pourrait arriver et nous ferait peur. Parce que si tu fais un petit tour d'horizon de toutes les sagas, par exemple, c'est intéressant que James Bond n'ait jamais essayé de faire un vrai passage de relais. Ouais, bon, là, ils le feront pas avec Daniel Craig.
Skyfall, hein.
Avec un ancien, tu vois, un ancien
James Bond. Ouais. Oui, c'est vrai, ils l'ont jamais fait.
Ils ont jamais essayé. Peut-être qu'ils le feront jamais.
À la Doctor Who, un peu, tu sais.
Ouais, exactement.
Attends, faut se dépêcher parce qu'il y en a pas tant que ça, là, du coup, qui reste vivant. Il y a Pierce Brosnan, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que le dernier, on peut plus, quoi. Est-ce que les Dents de la Mer, tu vois, un jour, ils vont essayer de faire un truc. Tu sais, c'est étonnant. En fait, maintenant, je suis en train de me dire, tu sais, je tape sur Google, franchise, very connue et very aimée, et je vois ce qui sort en me disant, tiens, il n'y a jamais eu le Legacy Quell là-dessus,
ouais,
quoi.
Non, mais c'est vrai.
Le Parrain, est-ce qu'un jour.
Les Dents de la Mer, ce serait un bon candidat, puisqu'il y a vraiment ce point de départ de le premier est universellement aimé, et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les suites.
Bah ouais, tu fais Halloween 2018,
tu fais une croix dessus, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Bah, et le Parrain serait intéressant maintenant que Al Pacino est tout vieux, qu'il reprenne, qu'il fasse le Marlon Brando du premier film, en fait.
Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que le Parrain 3, c'est déjà plus ou moins une forme de Legacy Call. Mais bon, encore une fois, c'est involontaire, quoi.
Le truc hallucinant, ce ne soit toujours pas fait, mais c'est parce que c'est compliqué pour eux et je crois qu'ils veulent pas trop, c'est Gremlins aussi. Ce serait tellement évident, ça veut pas dire qu'on veut, mais ce serait tellement évident de faire revenir ces deux acteurs qui n'ont pas fait grand-chose depuis et de leur faire passer le relais à des gamins, puisque c'était un couple modèle, donc ils sont forcément des gamins depuis, voire des petits-enfants.
C'est vrai.
Donc c'est assez étonnant. Je dis pas qu'il faut.
Oui, non.
Mais c'est étonnant.
Ouh là là,
on sait
Gremlins,
que Retour à le futur, la même question se pose. Ils veulent pas, mais sinon, je pense qu'ils se seraient déjà tous jetés dessus.
Mais attention à ce que tu dis quand même, parce que des fois, on évoque des pistes qui sont concrétisées dans les semaines plus tard pour les studios, donc leur donne pas des idées.
Mais pareil pour Retour vers le futur, mais je crois que Retour vers le futur, pour le coup, ils sont hyper, ils font hyper gaffe. Ouais,
Je pense qu'ils ont vraiment réussi à verrouiller les droits de manière incroyable pour que depuis tout ce temps, ils aient toujours rien fait.
Ouais.
Et bravo à eux. Sinon, moi je me dis peut-être qu'on aura The Faculty Legacy, The Mask Legacy, Austin Powers Legacy.
Oh, j'avoue!
Urban Legend Legacy, franchement.
Non, mais comment tu fais un Austin Powers marrant en 2020, quoi?
Très bonne question. Tu le donnes à Nicolas Bedos.
Oh my god!
Et bon, on sait évidemment du côté du Seigneur des Anneaux, de Marvel, c'est des trucs qui pendonnaient, quoi. Marvel, je sais pas à quel moment ils vont essayer de rappeler des.
La série d'Amazon, pure Legacy Call. La question de suspense de toute la putain de saison, c'est est-ce que ce mec c'est Sauron ou c'est Gandalf? Enfin, je veux dire.
Et du coup, c'est Legacy Prequel. Legacy Prequel.
Ouais, c'est ça, Legacy Prequel.
Legacy Prequel.
Ça devient complexe. T'as le même truc de tu veux retrouver ce que tu connais et faire un passage de relais avec une nouvelle génération, sauf que là, le passage de relais il se fait 1000 ans plus tôt, quoi.
Ok.
Je rajoute quand même le fait que. Vendredi 13, ils en ont fait 12.
Ah non, le mieux c'est
bordel.
C'est les titres qu'ils ont, non? Il y en a un, c'est genre vendredi 13, 8, épisode 2.
Mais en fait, c'est des versions françaises qui rajoutent toujours
ça, c'est
des finales. Et en fait, c'est jamais
vendredi 13 aussi, ça revient. Ils ont fait un remake produit par Michael Bay, non?
Ouais. Qui Mark Nipsel.
S'en fout.
Qui est pas si mal. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est un pur remake. C'est rigolo.
C'est nul. Tu l'as vu?
La douleur.
C'est parce que t'as pas vu le 7 et 8, clairement.
Ah oui, non, bah c'est sûr.
Ça, c'est parce que t'as pas vu les Bronzés 3. Franchement, heureusement qu'on est entre nous, parce que je pense que si les gens nous écoutaient, on aurait encore la réputation de rien aimer, et ça, c'est notre petit secret, on doit le cacher à tout le monde, et ça devient franchement un peu difficile depuis que t'es dans la rédaction, Judith. Hein. je le dis comme ça, mais... du coup, je me demande si, en fait, les Legacy Calls, ça ferait un bon sujet, parce que, en fait, est-ce qu'on arriverait à en parler en restant gentil, mignon? Gros doute, hein, parce que...
sans citer 74 000 films sur deux épisodes.
Et sans arriver au point Godwin des nazis à deux doigts.
Moi, je veux un Legacy Call sur Equilibrium.
On va faire comme si on n'avait pas écouté. Bon, de toute façon, on a une très longue liste de sujets potentiels de podcast parce qu'on a des films de requins qu'on n'a pas fait. On a des films Catastrophe, Vin Diesel, Margot Robbie, la saga Saw, la saga Robocop, la stop motion. Donc, on a du pain sur la planche. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on attend et plus on sera aigri et plus on sera drôle.
Oui.
Non.
Oui.
Donc, en tout cas, j'espère, parce qu'apparemment, la règle pour qu'un podcast marche, c'est que les gens, ils aiment bien. Ils mettent des bonnes notes sur les plateformes d'écoute. Donc, va peut-être falloir apprendre à être sympa et accueillant pour que notre futur podcast se démarque des autres et nous rende riches et nous autorise à ne pas être sympa comme tous les gens riches.
T'es déjà pas sympa.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.